respect de leur comportement et bien appliquer pour une monde qui change.
Ce qui va se passer en cas où ils sont pas
cognitifs, de moi une observatrice du genre humain.
On arrive maintenant à voir les cratères à la surface des astéroïdes.
On travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode à la recherche d'acteurs de science. Je suis Marie-Charlotte et en cherchant des modélisateurs au sein du CEREG, laboratoire de géosciences, je suis tombée sur Sophie Viseur dans son bureau rempli d'ordinateurs. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors vous êtes ingénieure de recherche en informatique et calcul scientifique. Est-ce que vous pouvez me décrire votre métier en tant que modélisatrice ?
Alors, qu'est-ce qu'un modèle déjà ? Donc un modèle, c'est une représentation de la réalité, que ce soit un processus ou un objet. Et mon travail, en fait, c'est d'aider et aussi de mettre en place des méthodes pour modéliser des objets géologiques souterrains. La géologie, c'est l'étude des roches. Donc, en fait, c'est comment, quelle est la structure des roches dans le sous-sol, en fait. Donc en ce sens, je suis modélisatrice, mais par contre, en fait, dans mon métier, ce qui me plaît énormément, c'est de mettre en place des méthodes mathématiques et informatiques pour étudier des objets, mais qui peuvent avoir plein d'applications, pas que la modélisation. Pour donner des exemples, je travaille dans ce qu'on appelle la reconnaissance de forme, c'est-à-dire on essaye à partir d'une image d'extraire des informations. Je fais une partie de mon métier modélisation, une partie et plus dans des développements algorithmiques et de méthodes mathématiques appliquées qui peuvent avoir d'autres applications.
Voilà. D'accord. Pour que l'on visualise un petit peu mieux ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous pouvez me parler d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment et qui vous tient à cœur ?
Alors, je vais essayer de vous parler de deux projets, parce que même si je suis ingénieure de recherche, en fait, je m'implique aussi pas mal dans l'enseignement. Donc au niveau recherche, en fait, comme je disais, un sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est d'extraire des informations à partir d'images, de données 3D, c'est-à-dire de reliefs qu'on obtient par lidar ou photogrammétrie. On scanne, par exemple, une falaise pour pouvoir avoir un modèle numérique de ces falaises. Et moi, j'essaye d'extraire des informations géologiques sur ces données 3D. Alors ça c'est intéressant parce que ça fait appel à plein de méthodes en mathématiques aussi, ça fait appel au deep learning, à donc des méthodes de réseaux de neurones, d'intelligence artificielle. Et alors ce qui est très très intéressant, c'est qu'au départ, donc c'est des méthodes que j'ai mises en place pour la géologie et qui de plus en plus sont aussi utilisées pour l'astronomie. Je travaille sur des données de Mars, pour extraire des cratères d'impact d'astéroïdes, d'essayer d'extraire des fractures de la comète Chury. Et donc, je trouve que c'est assez incroyable de se dire qu'on travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres et que là, ils sont dans mon ordinateur. Et sinon, au niveau pédagogique, j'essaye de monter, là, je débute dans la construction d'un projet pédagogique qui utilise la réalité virtuelle. Déjà, c'est pour pouvoir amener les étudiants sur Mars et sur la comète, ce qui n'est pas très évident, puisque c'est humainement inaccessible, mais aussi pour la géologie. Puisqu'en fait, quand on est étudiant en géologie, on fait ce qu'on appelle des camps de terrain, c'est-à-dire que vous allez dans la campagne, vous regardez les roches qu'il y a autour de vous, et puis vous essayez de savoir d'où elles viennent, comment elles sont arrivées là, comment elles se sont construites, pourquoi elles ont la forme qu'elles ont aujourd'hui. Et de fait, pour pouvoir faire ça, vous êtes obligé d'observer, de recueillir des informations et ensuite de compiler tout ce que vous avez appris durant vos TP et vos TD de géologie pour pouvoir répondre à la question. C'est un peu comme une énigme, en fait, à résoudre. Et donc, du coup, l'idée, là, c'est de faire ces opérations dans le monde de la réalité virtuelle avec un casque de réalité virtuelle. Pourquoi ? Parce que les étudiants, en fait, font quelques camps de terrain parce que ça demande beaucoup d'énergie, de temps, de frais de déplacement. Et donc, l'idée, c'est de faire venir les affleurements aux étudiants Et en plus, parce que des fois, on a des affleurements en Arabie Saoudite et c'est pas facile de faire transporter toute une classe en Arabie Saoudite ou dans le Grand Canyon ou dans certains endroits qui sont dangereux. Donc voilà, l'idée est de plonger les étudiants dans ce monde virtuel dans lequel ils auront des indices, des morceaux de roche qu'ils pourront regarder. Ils pourront regarder l'affleurement comme s'ils y étaient, enfin à peu près. C'est très très intéressant parce que je me demande en fait comment la réalité virtuelle peut à la fois aider à l'apprentissage. Et ça fait appel aussi à la science cognitive puisque en fait on est immergé dans un monde qui n'est pas ce qu'on a autour de nous. Donc on a des stimuli un peu différents de ce qu'on est en train de vivre. Et donc c'est tout ça qui m'intéresse dans ce projet pédagogique. Voilà.
Super. Je vois que ça vous intéresse, ça vous passionne même un petit peu ce que vous faites, à la fois modéliser les affleurements terrestres et même dans l'espace. Qu'est-ce qui fait que vous modélisez aujourd'hui ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ?
Alors d'abord pour le domaine dans lequel je travaille, informatique et calcul scientifique, c'est parce que je suis passionnée de mathématiques, mais vraiment passionnée de mathématiques, c'est-à-dire que je lis des mathématiques pour mon plaisir, comme des romans. Je lis aussi beaucoup de romans, je ne suis pas monomaniaque des mathématiques, mais j'adore les mathématiques. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi un métier qui est lié principalement à ça. Alors pour la recherche, c'est parce que j'adore monter des projets, que ça soit scientifique ou artistique. J'adore monter des projets, j'adore être dans la création, j'adore mettre en place un projet, donc ici un projet de recherche, c'est quelque chose qui fait partie de moi, je dirais, et j'adore aussi résoudre des problèmes, j'adore apprendre. Donc ce qui est très intéressant dans le monde de la recherche, c'est qu'on est toujours un peu aux frontières du savoir. Alors ça fait un peu pompeux, mais c'est pour dire qu'en fait, on est toujours obligé de se mettre à jour sur les informations qu'on a, sur les découvertes, sur les choses qui ont été mises en place. On est obligé de lire qu'est-ce qui est nouveau, qui a fait quoi dans telle partie des mathématiques, dans telle partie de l'informatique. Donc c'est ça qui me plaît parce qu'on est toujours obligé d'apprendre en fait. On n'est pas dans la répétition et la routine. Enfin, effectivement, il y a des parties de mon métier qui sont très routinières. Mais on n'est pas, on n'est quand même pas là-dedans. Donc c'est ça qui me plaît. Et aussi, alors pour ma trajectoire, elle a été guidée par deux choses. Je dirais que je n'ai pas en fait suivi mon parcours dans l'objectif d'un métier. En fait, ma philosophie a été la suivante. J'ai essayé d'apprendre le plus possible, c'est-à-dire de trouver des études qui font en sorte que j'apprenne le plus de choses possible. Donc même si j'adorais les mathématiques, j'ai pas fait que des mathématiques. J'ai fait de la biologie, de la géologie, j'ai fait de la linguistique. Et du coup, ça m'a donné un parcours assez alambiqué. Et à la fois, j'avais cette espèce de contrainte de ne pas trop m'éloigner des mathématiques. Donc c'est ça qui m'a guidée et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je fais le métier que je fais parce que je fais des mathématiques dans un laboratoire de géosciences, je travaille avec des astronomes et ça me plaît énormément d'être dans ce cadre multidisciplinaire parce que du coup ça me fait encore apprendre plein de choses par le biais des chercheurs que je rencontre. C'est très varié en fait, donc du coup c'est ça qui me plaît énormément. Donc je dirais pas vraiment que j'ai choisi le métier, mais en fait, au bout de ce chemin un peu complexe, je suis arrivée là. Et c'est vrai que je suis ingénieure de recherche, mais c'est pas... Je dirais que ingénieure de recherche, il y a souvent mise en pratique de protocoles, etc. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien l'abstrait et la pensée, et le raisonnement. Donc du coup, tout le côté très matériel, c'est pas trop mon domaine, par contre.
Et par rapport à votre métier de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à modéliser, sur lesquelles vous butez et qui vous amènent à des questionnements auxquels vous n'avez pas encore de réponse ?
Alors, je vais essayer de pouvoir en parler, parce que des fois, il y a une question de vocabulaire qui fait que c'est pas très simple. Il y a une question que je me pose. J'aimerais mettre en place un test d'hypothèse pour comparer deux covariances spatiales et savoir si c'est possible. Donc, vous voyez, au niveau du vocabulaire, il y a pas mal de vocabulaire mathématique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Covariance spatiale, c'est un outil statistique qui permet de mesurer, on va dire d'estimer, comment une propriété varie dans l'espace. En fait, si vous regardez une photo, une image, la couleur qu'il y a en un pixel n'est pas très différente de la couleur qu'il y a dans un pixel qui n'est pas loin. Parce que justement, ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas de l'aléatoire pur. Et donc, il y a un processus qui fait que les couleurs sont organisées d'une certaine manière. Et donc, cette covariance spatiale essaye de capturer cette façon dont cette propriété, ici la couleur, est répartie dans l'espace. Et donc, ça étudie la corrélation entre des points en termes de variation de propriété, ici la couleur. Et alors, qu'est-ce qu'un test d'hypothèse ? Un test d'hypothèse, grosso modo, c'est quelque chose qui essaye de comparer deux valeurs, deux paramètres statistiques, et de voir si, en fait, la différence qu'il y a entre les deux, est-ce qu'elle peut être due au hasard, ou est-ce qu'elle est vraiment tellement significative que, là, on peut se dire, à un certain pourcentage de risque donné, que là, vraiment, il n'y a pas trop de chances qu'elle soit égale, par exemple. C'est un test d'hypothèse peut tester ça. Donc, c'est de regarder si ce qu'on mesure peut être lié au hasard ou qu'il y a vraiment quelque chose qui existe. Par exemple, si vous voulez comparer, je sais pas, vous avez deux zones dans votre potager, vous voulez comparer la taille de vos tomates dans une partie de votre potager, dans une autre partie de votre potager, vous regardez si en moyenne, elles ont des tailles différentes. Et si vous mesurez ça sur 5 tomates d'un côté et 50 tomates de l'autre, en fait, ça ne va pas représenter le même objet. Et puis, si vous faites une mesure de diamètre de tomate sur 5 tomates, vous allez retrouver un chiffre. Sur 10 tomates, vous allez en retrouver un autre qui va peut-être être très différent si vos tomates sont de forme très différente, de taille très différente. Et donc, les tests d'hypothèse font ça. Donc, alors moi, c'est un sujet qui me taraude. Pourquoi ? Parce que, en fait, les tests d'hypothèse, souvent, sont fondés sur l'hypothèse d'indépendance des échantillons. Et là, typiquement, dans mon problème, par définition, les échantillons sont corrélés, puisque justement, on est en train de mesurer une corrélation entre des valeurs. Donc, j'essaye de trouver de résoudre un problème mathématique qui n'est pas simple, puisque pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'outils pour travailler dans le cadre de la dépendance de variables statistiques. Donc du coup, voilà, c'est un sujet qui me taraude. J'ai pas eu beaucoup le temps d'aller trop loin dans l'aspect mathématique, donc voilà, c'est un sujet qui peut être utilisé après pour des aspects modélisation.
Donc c'est un questionnement qui en est à ses débuts, et oui, qui voilà. Demande beaucoup de développement.
Tout à fait.
Et alors, pour terminer, si je vous demande de décrire votre métier, votre activité en un seul mot, qu'est-ce que vous me répondriez ?
Alors, je pense que je répondrais créateur ou créatrice, parce que je suis une fille. Et voilà, parce que je trouve que vraiment, dans le métier de la recherche, il faut avoir un esprit créatif. Je trouve que c'est important.
Et bien, merci beaucoup, Sophie.
Bien, merci à vous, mademoiselle.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié cette découverte des coulisses du Cérège, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.